Europe 1.
Midi 30, 13h, le journal de la mi-journée sur Europe 1, c'est avec vous Fabienne Lemoyle. Bonjour Fabienne.
Bonjour Marlène, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal de la mi-journée. À la une, Donald Trump qui doit s'exprimer à 14h, heure française, pour une déclaration très importante de la Maison Blanche. Les médias américains parlent d'un raid qui aurait été mené contre le chef du groupe État islamique, raid dans lequel Al-Baghdadi aurait trouvé la mort. Nous ferons le point avec Didier François dès le début de ce journal sur ce que l'on sait de cette opération des Américains. C'est donc bien le corps de Sophie Letan qui a été retrouvé dans une forêt alsacienne un an après sa disparition. Et pour l'avocat de la famille de l'étudiante, le principal suspect va devoir s'expliquer.
Pour nous, il a commis des actes monstrueux et toutes les charges démontrent sa culpabilité. Le fait d'avoir tué Sophie et d'avoir massacré son corps.
Les anti-indépendantistes dans les rues de Barcelone en ce moment pour dire « ça suffit », c'est une foule impressionnante qui a envahi le centre-ville.
On se sent humilié, on se sent... ils veulent qu'on s'en aille de chez nous. Et Catalunya, c'est l'Espagne. C'est horrible.
Le journal des sports avec l'Afrique du Sud qui affrontera l'Angleterre en finale de la Coupe du Monde de rugby. Enfin, la météo et Laurent Cabrol nous avaient prévenu, la pluie est bien au rendez-vous.
Europe 1.
C'est donc dans une heure et demie maintenant que Donald Trump doit s'exprimer pour une annonce très importante. Voilà ce qu'a annoncé le porte-parole de la Maison-Blanche hier soir. Annonce qui faisait suite à un tweet très énigmatique du président américain. Quelque chose d'énorme vient de se passer. Pour les médias américains, derrière ces quelques mots se cache l'annonce d'un raid contre Al-Baghdadi dans lequel le chef de l'État islamique aurait été tué. Avec moi, Didier François, spécialiste des questions de défense et de terrorisme à Europe 1. Alors Didier, pour l'instant, aucune confirmation du côté du Pentagone. Mais ce qui est sûr, Didier, c'est que les forces spéciales américaines ont bien mené une opération.
Tout à fait, ouais, et qui visait spécifiquement Baghdadi. C'était hier, le magazine Newsweek a d'ailleurs obtenu pas mal d'informations. Il explique comment un recueil patient de renseignements a permis de localiser Baghdadi, qui logeait avec ses deux épouses dans la maison d'un cadre djihadiste dans la région d'Idlib, donc dans le nord-ouest de la Syrie, et plus exactement dans le village de Barisha, à 7 km de la frontière turque. Un groupe d'assaut a dès lors été constitué autour d'un élément mixte qui était composé à la fois de commandos militaires et de membres de la CIA, auquel Donald Trump a donné l'autorisation d'action il y a quelques jours. Ils sont intervenus dans la nuit à bord d'hélicoptères. Deux responsables de Daesh ont été tués dans l'opération, donc a priori Abou Bakr al-Baghdadi. Les commandos ont soigneusement fouillé le site à la recherche de toute information, de tout renseignement exploitable. Ils ont pris de l'ADN, ils ont relevé des empreintes. Tout cela est en train d'être analysé. Et puis après leur extraction, donc de leur évacuation, un chasseur est venu lâcher plusieurs bombes sur le bâtiment qui a été totalement rasé.
Alors si la mort de al-Baghdadi se confirme, on l'a bien dit pour l'instant, aucune confirmation officielle, ce serait évidemment un coup dur porté à l'État islamique.
Oui, extrêmement dur, dans la mesure où Baghdadi était le chef absolument incontesté de cet État islamique, une figure très charismatique dans les rangs des djihadistes. C'est lui qui avait en fait modelé Daesh depuis qu'il en avait pris la tête en 2010. C'est également lui qui incarnait ce projet de califat, qui le portait, qui a osé proclamer en juillet 2014 ce califat dans la mosquée Al-Nouri de Mossoul. Il s'est même nommé lui-même calife, justement parce qu'il voulait le personnifier, ce califat. Et qui était quand même assez conséquent. Les légions islamistes l'ont taillé assez rapidement depuis le nord-ouest de la Syrie jusqu'à la limite du Kurdistan irakien en 2014. Il avait pratiquement la taille de la Grande-Bretagne, des millions d'habitants qui étaient soumis à son arbitraire. Et donc, il avait fallu le combattre 5 ans pour le détruire, mais on peut penser légitimement que donc la conjonction de ces deux choses, la fin du califat territorial et la fin de Baghdadi, eh ben marque la fin du projet de califat de Daesh.
Alors ce n'est pas la première fois qu'on annonce la mort présumée de al-Baghdadi. Est-ce que pour autant, si ça se confirmait aujourd'hui, Didier, ça voudrait dire qu'on en aurait fini avec l'État islamique ?
Alors, évidemment pas, parce que la mutation de Daesh avait commencé déjà au printemps dernier avec la chute territoriale du califat. On a vu l'organisation commencer à passer à la clandestinité avec les cellules dormantes qui étaient capables de mener des opérations de harcèlement. Et puis, évidemment, l'opération militaire turque dans le nord de la Syrie donne des perspectives énormes aujourd'hui à ce qui reste de Daesh. Mais quand même, ça va lui mettre... c'est un choc. Elle va prendre du temps, cette organisation, à se reconstituer, parce qu'il faut qu'un nouveau chef s'impose à l'intérieur. C'est pas évident, c'est une organisation très totalitaire. On l'a vu pour Al-Qaïda après la chute de la mort de Osama Ben Laden. Son successeur Zawahiri a mis du temps à s'imposer. Il n'a jamais réussi à reprendre totalement en main l'organisation. Mais cette organisation a survécu, elle s'est adaptée et elle représente toujours une menace.
Merci beaucoup Didier François. Nous sommes en ligne avec la spécialiste des États-Unis, la politologue Nicole Bacharan. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on l'a bien dit, Donald Trump doit s'exprimer d'ici une heure et demie pour une annonce importante. Il y a eu ce tweet énigmatique. Les médias américains, donc, on le disait, annoncent qu'il pourrait s'agir d'une opération menée contre al-Baghdadi. Qu'est-ce qu'il faut penser, Nicole Bacharan, du fait, en tout cas, que le président américain monte en première ligne ?
Ah ben Donald Trump a besoin de crier victoire. Donc si effectivement la mort d'al-Baghdadi est confirmée, c'est une occasion de crier victoire, puisque ça fait 15 jours qu'il est en fait en pleine débâcle à cause de sa décision en Syrie de retirer les troupes entre les Kurdes et les Turcs à la frontière nord-syrienne. Donc le fondement de sa manière de crier victoire, ça sera de dire « je vous l'avais bien dit, j'avais vaincu l'État islamique puisqu'il met toujours tout à la première personne, nous avons gagné, al-Baghdadi est mort, s'il est effectivement mort, et la présence des troupes américaines n'a plus de sens puisque on a gagné. »
Ça intervient en plus, Nicole Bacharan, dans une séquence où il est aussi, au niveau interne, visé par une enquête en vue de déclencher une procédure d'impeachment.
Il est extrêmement malmené. Les témoignages qui viennent de différents diplomates qui ont travaillé sur le sujet ukrainien montrent qu'il faisait pression sur un dirigeant étranger pour obtenir de l'aide dans sa propre campagne électorale, chose qui est absolument totalement illégale aux États-Unis. Donc ça ne s'annonce pas très bien. La décision de retirer les troupes à la frontière syro-turque et de laisser donc Erdogan mener son opération de nettoyage a suscité une levée de boucliers. Donc il multiplie depuis les cris de victoire sur l'État islamique, sur l'espèce d'accord qui a été conclu où Erdogan a obtenu tout ce qu'il voulait. Hier, sur le pétrole, en disant on a mis la main sur le pétrole, qui est quand même une déclaration absolument vertigineuse en matière de géopolitique et même de légalité. Donc là, s'il pouvait dire car il le dira forcément à la première personne, j'ai eu la peau du chef de l'État islamique, ça serait pour lui réellement une victoire extérieure. Merci. Et aussi intérieure.
Merci beaucoup Nicole Bacharan d'avoir été en ligne avec nous. Et on le dit donc, c'est d'ici une heure et demie maintenant que Donald Trump doit s'exprimer.
Il est 12h38, la suite du journal sur Europe 1, Fabienne Lemoyle.
La confirmation que la famille de Sophie Le Tan redoutait depuis un an est donc tombée hier soir. Les analyses ADN ont bien établi que le corps retrouvé mercredi en forêt à une trentaine de kilomètres de Strasbourg était bien celui de la jeune étudiante Charlotte Bechler.
Les proches de Sophie Le Tan vont enfin pouvoir commencer leur travail de deuil. Ce corps retrouvé, c'est surtout un indice de plus contre le principal suspect. Le téléphone portable de Jean-Marc Reiser avait borné dans la forêt où le cadavre a été retrouvé. Mais depuis le début, il nie toute implication. Il justifie les taches de sang et l'ADN retrouvés chez lui par une petite blessure à la main de Sophie qu'il aurait soignée avant qu'elle ne reparte. Le suspect est décrit comme quelqu'un de froid et de détaché. Et pour Gérard Welzer, l'avocat de la famille, la découverte du corps de l'étudiante ne va pas forcément le faire passer aux aveux.
Oh, vous savez, Monsieur Welzer, vous lui montrez une page blanche, il dit que c'est noir. Vous lui montrez une page verte, il dit que c'est rouge. Donc j'attends rien de ce monsieur. Si ce n'est que pour nous, il a commis des actes monstrueux et selon nous, toutes les charges démontrent sa culpabilité, le fait d'avoir tué Sophie et d'avoir massacré son corps.
Un corps démembré retrouvé mercredi en forêt de Grendelbruch à l'ouest de Strasbourg par un cueilleur de champignons. Cette zone avait pourtant été ratissée par les enquêteurs et les bénévoles sans rien trouver à l'époque. 13 mois après la disparition de Sophie Le Tan, la découverte du corps représente un tournant déterminant dans l'enquête.
Direction maintenant Barcelone. Après les indépendantistes, ils étaient encore 350 000 à défiler hier. C'est au tour aujourd'hui des opposants à l'indépendance de la Catalogne de descendre dans la rue. Première manifestation depuis le verdict qui a condamné à la prison ferme les leaders indépendantistes. Henri de la Guérie, vous suivez le cortège pour Europe 1. Et là aussi, l'idée, c'est de montrer que la mobilisation est forte.
Oui, une foule impressionnante a envahi l'immense avenue du Paseo de Gracia ce matin. C'est une marée de drapeaux espagnols. Derrière moi, vous entendez ce slogan « On ne brûle pas Barcelone ». Hier, de nouveaux affrontements ont en effet opposé des indépendantistes aux forces de l'ordre. Ignacio est né en Andalousie, mais il a passé une bonne partie de sa vie ici. Il a l'impression d'être méprisé par les autorités catalanes.
On se sent humilié, on se sent... ils veulent qu'on s'en aille de chez nous. Et Catalogne, c'est l'Espagne.
Vous pensez qu'il y a une fracture au sein de la société catalane ?
Si, sans aucun doute. C'est horrible.
Dans les sondages comme dans les urnes, les non-indépendantistes sont légèrement majoritaires dans la région. Les violences de ces derniers jours n'ont fait qu'accentuer la division entre Catalans. Parmi les manifestants, des ministres socialistes, les leaders de la droite, mais aussi Manuel Valls, conseiller municipal à Barcelone. Il estime que l'indépendantisme est dans une impasse.
Il n'y aura pas d'indépendance. Et moi, je suis persuadé qu'il y a une majorité de Catalans qui veut vivre dans un rapport normal, apaisé, riche par les différences, mais aussi par ce qui unit avec le reste de l'Espagne.
Et des manifestants n'ont pas pu rejoindre le centre-ville. Des indépendantistes ont saboté plusieurs lignes de train ce matin pour faire échouer cette mobilisation en faveur de l'unité d'Espagne.
Henri de la Guéry, correspondant d'Europe 1 à Barcelone. Faut-il interdire le port du voile aux mères qui accompagnent les sorties scolaires ? La question fait polémique depuis une quinzaine de jours et elle sera au cœur de l'examen d'une proposition de loi des Républicains mardi au Sénat. Question posée aussi ce matin à Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste sur Europe 1. On écoute sa réponse.
Partout, dans tous les pays, on a cherché justement à éradiquer de l'espace public tout signe religieux, tout signe de foi.
Non,
bah, ils sont revenus avec plus de force encore. Est-ce que vous pensez vraiment qu'une femme qui tient la main à un enfant pour le faire passer le passage piéton, c'est une éducatrice ? Est-ce que vous pensez que quand on va au théâtre avec des enfants et qu'on les aide à prendre le métro ou le RER, c'est une éducatrice.
Quand c'est organisé par l'école, est-ce que c'est pas...
C'est organisé par l'école. Mais dans ce cas-là, si vous dites que ça a un lien avec l'école, dans ce cas, il faut empêcher maman aussi de rentrer à l'école avec un foulard. Moi, je vois, quand j'emmène mes enfants à l'école, eh bien, il y a des mamans avec des foulards qui emmènent les enfants jusqu'à la classe. Est-ce qu'il faut leur retirer ce droit ? Je pense que la laïcité, elle protège, et y compris les seuls usagers du service public qui sont avec une obligation de ne pas porter de signes distinctifs, ce sont les élèves. Pourquoi ? Parce que c'est un moment dans leur vie où on considère qu'ils ont à apprendre ce qui nous est commun.
Qui s'émancipe.
Et qu'ils aient possibilité de s'émanciper, y compris de leur milieu d'origine. Donc, ceux qui les accompagnent doivent être dans une stricte neutralité, pas d'accord, de prosélytisme.
Olivier Faure, qui était l'invité du grand rendez-vous européen, c'est News Les Échos. Attention, si vous prenez le train aujourd'hui dans le sud de la France, ça s'annonce compliqué. Mouvement de grève qui perturbe la circulation des trains dans la région PACA. De nombreux TER sont supprimés jusqu'à demain midi sur la ligne Marseille. Pertuis, TER supprimé, mais car de substitution, pareil pour Avignon TGV et Carpentras. Mouvement qui se poursuit demain, mais cette fois dans l'ouest de la France, avec selon les syndicats, 2 trains sur 10 seulement qui circuleront. La SNCF va faire un point complet sur l'état du trafic ce soir à 17h. Ça y est, on est passé à l'heure d'hiver, ça veut dire que la journée va être un peu plus longue, une heure de plus. Et Marion Gauthier est allée voir comment vous avez vécu ce petit changement et si vous avez déjà pris le pli de cette heure d'hiver.
Je me suis réveillé à même heure que d'habitude. J'étais couché, mais bon, j'étais réveillé, quoi, parce qu'on est habitué à se réveiller à l'heure, donc il faut mettre une semaine pour s'habituer.
Notre horloge, c'est notre enfant. Et donc lui, il est calé sur 7h du matin, donc il s'est réveillé à 6h ce matin. Voilà, on est tout perdu.
On réfléchit toujours, alors on recule cette fois-ci ou on avance. Non, on avance au printemps, on recule l'hiver. Et on regarde le portable quand même, on confirme. On était réveillé un peu plus tôt que d'habitude. Et on est au marché plus tôt que d'habitude.
Bon, madame, ça vous sert ? Ça fait 35 ans que je fais les marchés et ça n'a jamais changé. Il y a un peu moins de monde, c'est toujours pareil. En plus, on est en vacances scolaires, c'est un débâcle total.
Moi, je vends des produits régionaux et avec l'horaire d'été, il fait plus frais le matin sur les marchés. Je préfère l'horaire d'été.
Voilà, je préfère l'horaire d'été. Ben là, on est parti pour l'heure d'hiver. Marion Gauthier dans les rues de Paris qui vous interrogeait ce matin.
Le journal des sports.
Avec Lénaïque Le Monnier, on commence par de la voile. C'est presque l'heure du départ. 59 voiliers s'apprêtent à quitter le Havre pour la Transat Jean Gabre.
Oui, départ qui sera donné à 13h15, c'est imminent. La Transatlantique va mener ses marins au Brésil, à Salvador de Bahia, traversée de 8000 km sur des bateaux toujours plus performants, plus rapides, mais aussi plus difficiles à manœuvrer. En pleine mer, il faudra se concentrer pour éviter de percuter les autres bateaux, presque tous équipés de foils, ces espèces de grosses moustaches latérales qui font voler les embarcations et qui surtout prennent beaucoup de place. Écoutez Yannick Bestaven, skipper de Maître Coq.
C'est des pièges classiques, sauf qu'on va un peu plus vite, donc les chocs et les impacts sont un peu plus violents et il va falloir faire attention à ne pas toucher, à ne pas prendre de casier, de filet ou de choses qui pourraient traîner dans l'eau, dans la manche, comme on en rencontre parfois. Mais non, il n'y a pas plus de risques, c'est juste qu'on va aller un peu plus vite et du coup, c'est bien d'avoir autant de bateaux pour jouer, quoi.
Qu'est-ce qu'elle a comme intérêt justement cette course-là, cette transat juste à un an quasiment pile du départ du Vendée Globe?
C'est une bonne révision parce qu'en plus on est à deux, donc c'est peut-être un peu plus facile de tirer à deux sur un bateau, d'être plus en confiance. Et puis il ne faut pas oublier que c'est quand même le premier tiers du parcours du Vendée Globe que l'on va faire. Et donc c'est hyper important de réviser ses gammes sur la Jacques Vabre.
Yannick Bestaven au micro Europe 1 de Corinne Boulou.
Un choc ce soir, c'est du football. Le PSG-OM, un match très attendu comme chaque année.
Même si l'offre au final, peu de surprises depuis des années. Paris n'a plus perdu face à l'OM depuis 2011 et même 2010 si on parle des matchs au Parc des Princes. Mais ça reste un moment important pour les joueurs des deux clubs et surtout pour les supporters. Écoutez le capitaine du PSG, Thiago Silva.
Oui, bien sûr. À mon avis, c'est plus important qu'aujourd'hui. C'est le Clasico. On joue au Parc. On sait que c'est un match très important de la saison pour nous et surtout pour les supporters. On sait l'histoire de cette Clasico. Il faut gagner parce que venir jouer ici à Bruges e avoir notre supporter ici, Flamengo, c'est incroyable. J'espère que dimanche au Parc pourra être pareil.
Thiago Silva avec Sébastien Bau et un match à prendre au sérieux pour Paris qui joue donc à la maison. Mais du côté marseillais, qu'en pense-t-on? Eh bien, vous allez l'entendre, c'est tout l'inverse. On minimise l'enjeu. C'est le cas d'André Villas-Boas qui est l'entraîneur de l'OM.
Maintenant vient un match totalement différent. Un match que toujours contre une équipe qui n'est pas de cette ligue, dans mon opinion. Ce n'est pas un match qui compte trop pour moi. Cette Paris Saint-Germain, OM Paris Saint-Germain, pour moi, c'est essayer de faire quelque chose. On a un rêve, ici, évidemment, de gagner, mais c'est une équipe de notre ligue. Et cette Classico a été jouée dans le passé.
Et propos recueillis par Christophe Lamarck, coup d'envoi 21h, c'est à suivre en direct et en intégralité sur Europe 1. Auparavant, on suivra deux rencontres, Rennes-Toulouse à 15h et Saint-Étienne-Amiens à 17h.
Et puis ça y est, on a l'affiche de la finale de la Coupe du Monde de rugby, on connaît l'adversaire de l'Angleterre.
C'est ça, un match très très serré ce matin qui a failli se terminer en match nul. Et finalement, c'est l'Afrique du Sud qui l'a emporté, 19-16, c'était face au Pays de Galles.
Merci beaucoup Lénaïque Monnier, il nous reste à voir le temps que nous réserve ce dimanche.
C'est bientôt l'hiver. Et en hiver comme en été, les pneus 4 saisons en Cook vous assurent une tenue de route parfaite. En Cook vous présente la météo.
Et on file la métaphore culinaire, Laurent Cabrol.
C'est vrai Fabienne, c'est une météo en sandwich. À l'heure du repas, ça s'imposait. En sandwich pour la bonne raison que la pluie sera concentrée entre une zone de nuages et une autre zone de nuages. Alors, les premiers nuages sont sur le nord, les autres sont sur le sud et au milieu de la pluie. Je vais vous donner les régions où il pleuvra demain. Franche-Comté, Alsace, Centre, Bretagne, Pays de la Loire, Bourgogne, Poitou-Charentes et Auvergne. Je dis bien demain, ça c'est la météo de demain. Avec des températures qui vont s'échelonner entre 9 et 14 degrés sur la moitié nord, il n'en fera que 12 à Paris, 12 à Caen. Et entre 17 et 24 degrés dans le sud, 17 à Lyon, 20 à Nice, 21 à Marseille, 23 à Pau et 24 degrés à Ajaccio. Voilà pour les températures les plus élevées. Voilà pour cette journée de lundi et ensuite les températures vont fraîchir dans les jours qui viennent.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. À suivre, alors que vous êtes nombreux à prendre la route pour les vacances de la Toussaint, on va voir si la voiture autonome n'est pas la solution pour réduire les morts sur les routes, mais vous allez voir que cela pose bien des questions. Comment programmer cette voiture si on ne peut pas éviter un accident? On pose la question au chercheur Jean-François Bonnefond qui vient d'écrire « La voiture qui en savait trop ». Il est mon invité.
Soyez les bienvenus sur Europe 1, il est midi 50 et le journal de la mi-journée se poursuit avec votre invité Fabienne Lemoyle.
Et une question, et si la voiture autonome était la solution pour réduire le nombre de morts sur les routes? Une question qu'on se pose à l'heure des départs en vacances de la Toussaint. Une question légitime puisque la promesse de ces voitures sans conducteur, c'est justement de sauver des vies. Mais que se passera-t-il si cette voiture autonome ne peut pas éviter un accident? Comment faudra-t-il dans ce cas la programmer pour la détourner de sa trajectoire, pour qu'elle n'entre pas en collision avec un groupe d'enfants qui traversent la chaussée et qu'elle percute du coup plutôt un piéton plus âgé? Autant de choix cornéliens, de dilemmes qui sont au cœur des recherches de Jean-François Bonnefond, docteur en psychologie et professeur à la Toulouse School of Economics. Bonjour.
Bonjour.
Vous venez d'écrire La voiture qui en savait trop et vous êtes à la tête d'un groupe sur l'éthique des voitures sans conducteur mis en place récemment par la Commission européenne. C'est quoi justement, Jean-François Bonnefond, les problèmes éthiques que pose cette révolution technologique?
Alors, on pourrait parler des problèmes éthiques qui se posent à toutes les technologies issues de l'intelligence artificielle, hein, mais avec les voitures autonomes se pose un problème éthique bien particulier, qui est celui des accidents qu'on va les autoriser à avoir.
C'est-à-dire que si on ne peut pas éviter un accident, par exemple, il faudra qu'elles choisissent qui on veut sauver, s'il y a un homme ou un animal sur la route, une personne ou 10 personnes, un enfant ou un adulte.
Alors ça, c'est effectivement le cas extrême du type de décision qu'une voiture peut prendre. Mais en amont de ça, il y aura combien d'accidents on va leur autoriser ? Et puis parmi les accidents qu'on va leur autoriser, avec quelle fréquence elles vont blesser différents usagers de la route ? Et puis le cas extrême, c'est celui effectivement où l'accident est inévitable et il faut choisir entre plusieurs victimes.
Et comment répondre à ces questions ? Je crois que votre démarche a été d'en appeler à l'opinion publique. C'est ce que vous racontez très bien dans le livre, avec une plateforme internet qui a déjà recueilli, je crois, plus de 40 millions de réponses à travers le monde.
Ah oui, c'était 40 millions, c'était il y a quelques mois déjà. Je pense qu'on en est à l'heure actuelle à plus de 100 millions.
Et ça consiste en quoi ?
Alors, Moral Machine, hein, puisque c'est son nom, est un site qui présente aux internautes des cas d'accidents inévitables. On trouve 13 types de scénarios, disons, comme est-ce qu'on préfère sauver le plus grand nombre ? Est-ce qu'on préfère sauver les enfants aux adultes ? Est-ce qu'on préfère sauver les humains aux animaux ?
Et alors justement, ce qui est amusant, c'est qu'il y a 15% des scénarios qui impliquent un animal. C'est pas anodin.
Oui, alors on peut imaginer que pour beaucoup de gens, c'est une question un peu triviale. Mais comme il nous fallait beaucoup de participation pour explorer tous nos scénarios, eh bien, sur Internet, si vous voulez être beaucoup partagé, il faut qu'il y ait beaucoup de chiens et de chats. Et comme ces scénarios sont beaucoup partagés sur les réseaux sociaux, eh bien, ça nous attire beaucoup de gens, oui.
Alors, les trois principales conclusions auxquelles vous êtes arrivé, et ça, c'était il y a déjà quelques temps, Jean-François Bonnefond, c'est quoi ?
Les trois grandes préférences, hein, à l'échelle mondiale, c'était dans cet ordre, sauver les humains plutôt que les animaux, sauver le plus grand nombre quand on peut, et puis donner la priorité à la vie des enfants. Les préférences que nous observons dans Moral Machine sont universelles. Tous les pays, par exemple, vont préférer sauver les enfants aux adultes ou aux personnes âgées. Mais nous avons effectivement observé trois grandes régions du globe, hein, l'Ouest, l'Asie et les pays musulmans, et puis l'hémisphère sud, avec par exemple en Asie une préférence nettement moins marquée pour sauver les plus jeunes.
Quand on entend ces 100 millions de réponses, est-ce que c'est l'opinion publique qui va faire la programmation de cette machine ? C'est un peu dangereux.
Alors, l'idée était d'informer les législateurs pour leur dire « prenez les décisions qui vous semblent les plus justes », mais anticiper que certaines des décisions que vous pourriez prendre vont être extrêmement impopulaires.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut être impopulaire, par exemple ?
Ce qui pourrait être très impopulaire, c'est la décision de ne pas donner la priorité à la sécurité des enfants. Malheureusement, cela pourra arriver. Hein. Le jour où des enfants seront des victimes d'un accident impliquant une voiture autonome, l'opinion publique pourrait être choquée d'apprendre que leur sécurité n'était pas une priorité.
Alors, dans la réalité, ce que l'on voit aussi à travers des accidents comme celui qui a eu lieu avec une voiture Uber et une femme renversée, c'était en 2018 à Tempe dans l'Arizona, une femme qui tenait un vélo à la main et qui était renversée par une voiture autonome, c'est que souvent, on est plus dans le cas de voitures qui ne sont pas totalement autonomes, où en fait, le passager à bord devrait pouvoir reprendre la main.
Exactement, c'est-à-dire des voitures qui circulent en mode autonome mais supervisées par quelqu'un qui est à l'intérieur. Et c'est ce qui s'est passé cette nuit-là à Tempe, oui.
Ça pose quoi comme problème, justement ?
Ça pose le problème de la vigilance, hein, de la personne qui est censée reprendre la main. Quand une voiture fait tout à votre place, il est très difficile de rester concentré sur la route pour reprendre le contrôle en une fraction de seconde. Ce jour-là, si vous voulez, ça a été une conjonction terrible d'événements. Dans les heures qui ont suivi l'accident, on a eu beaucoup d'informations, surtout sur la victime. Elle traversait la nuit sur une route à plusieurs voies, en dehors d'un passage clouté. Donc on avait l'impression au départ que c'était un problème avec la victime. Et puis ensuite, on a réalisé que la voiture elle-même avait détecté le risque de collision suffisamment tôt pour freiner, mais que son mode de freinage automatique avait été désactivé, laissant la main à l'opératrice. On réalise que l'opératrice était a priori en train de regarder une émission de télévision sur son téléphone au lieu de regarder la route. La conjonction de tous ces événements a mené à un accident mortel.
Du coup, quand on voit que la voiture autonome est plus une voiture où finalement il faut quand même garder une certaine vigilance aujourd'hui, est-ce que la manière la plus simple de se mettre à la voiture autonome, c'est pas simplement dans les embouteillages ?
Alors, c'est effectivement le cas d'usage qui peut être va introduire l'autonomie pour le plus grand nombre, hein, c'est-à-dire la voiture qui, quand elle détecte qu'elle est dans un embouteillage, prend la main totalement. C'est une situation à très faible risque, il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas de gens qui traversent brusquement la route. Ça vous permet de faire complètement autre chose. Et puis la voiture vous signale, quand l'embouteillage va être terminé, qu'il est temps de reprendre la main. Donc c'est probablement, effectivement, le cas d'usage qui va être le premier à être introduit, j'ai envie de dire, massivement sur nos routes.
Et est-ce que vous pensez que l'automobiliste d'aujourd'hui est prêt à totalement perdre la main s'il doit être confronté à des dilemmes tels que ceux que vous décrivez avec votre morale machine ?
Alors, je crois quand même qu'il faut vraiment, vraiment expliquer aux gens que les dilemmes extrêmes de morale machine ne vont se produire que d'une façon si rare qu'il est extrêmement improbable qu'un individu y soit confronté un jour dans sa vie. C'est un problème auquel il faut penser à l'échelle globale, mais à l'échelle individuelle, il est quand même très improbable que ça vous arrive. Maintenant, est-ce que les utilisateurs sont prêts? C'est une vraie question. Ils sont déjà prêts, bien sûr, à monter, par exemple, dans un taxi, en n'ayant aucun contrôle sur ce qui va se passer. Est-ce qu'ils sont prêts à monter dans une voiture où on a supprimé l'intermédiaire humain? Ça, c'est quelque chose qu'on va découvrir dans les mois et les années qui viennent.
Une dernière question, Jean-François Bonnefond. Ce schéma, est-ce qu'il est transposable à d'autres machines ou à d'autres choix cornéliens auxquels on peut être confronté? Vous parlez aussi dans votre livre de choix médicaux.
Oui, en particulier le problème des greffes de reins, un domaine qui a été envahi par l'intelligence artificielle, au sens où maintenant des algorithmes vont prendre la décision de qui va recevoir un rein, par exemple. Ce sont des domaines où on peut aussi envisager de faire appel à l'opinion publique, alors avec beaucoup de précautions, mais ça reste effectivement des problèmes où on a une ressource rare à distribuer et il faut faire des choix. Ces choix-là peuvent être informés par l'opinion publique, un peu comme nous l'avons fait avec Moral Machine.
Merci beaucoup Jean-François Bonnefond d'avoir été avec nous en duplex de Toulouse et je renvoie votre livre sur toutes ces questions que pose cette révolution technologique que va être la voiture autonome. La voiture qui en savait trop, titre de votre ouvrage chez Human Science.
Et dans un instant Fabienne, après le rappel des titres de l'info, nous ouvrirons les carnets du monde avec Sophie Larmoyer, son invitée aujourd'hui, le moine bouddhiste Mathieu Ricard, engagé dans l'environnement. Il est 13h. Bon dimanche avec Europe 1. Tout de suite, l'essentiel de l'info avec vous, Fabienne Lemoyle.
Et à la une de l'actualité, cette annonce que doit faire Donald Trump dans une heure maintenant, une annonce très importante, a dit hier soir le porte-parole de la Maison-Blanche. Là, suivait un tweet du président américain où il écrivait que quelque chose d'énorme venait de se passer, sans plus de précision. Plusieurs médias américains disent que Donald Trump va en fait s'exprimer sur un raid mené par les forces américaines contre le chef de l'État islamique, dans lequel Abou Bakr al-Baghdadi serait mort. Didier François nous disait en début du journal de la mi-journée que les forces américaines avaient bien mené une opération, mais pour l'instant, aucune confirmation du côté du Pentagone. Toujours dans l'actualité de ce dimanche, le dénouement que redoutait la famille de Sophie Le Tan depuis plus d'un an. Les analyses ADN ont confirmé que le corps retrouvé cette semaine dans une forêt alsacienne était bien celui de l'étudiante. À Barcelone, les anti-indépendantistes dans la rue en ce moment, une semaine après les violences qui avaient marqué les manifestations des pro-indépendantistes. Leur slogan « ça suffit ». Et puis attention, si vous prenez le train aujourd'hui dans le sud-est de la France, ça s'annonce compliqué. Un mouvement de grève locale perturbe la circulation des trains dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. De nombreux TER sont supprimés jusqu'à demain midi. Sur la ligne Marseille-Aix-Pertuis, tous les TER sont supprimés. Des cartes de substitution ont été mises en place. Entre Avignon TGV et Carpentras, même situation, pas de TER, mais des cartes toute la journée. Le mouvement va toucher demain l'ouest de la France. Selon les syndicats, 2 trains sur 10 seulement circuleront. La SNCF doit faire un point précis sur l'état du trafic ce soir à 17h. Mmh. Et puis un mot de sport avec l'Afrique du Sud qui sera l'adversaire des Anglais en finale de la Coupe du Monde de rugby au Japon. Les Sud-Africains qui ont battu ce matin le Pays de Galles 19-16.
Merci Fabienne Lemoyle, vous revenez bien sûr à 18h aux côtés de Wendy Bouchard pour le Grand Journal du Soir sur Europe 1.